Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir à la une, la commémoration des attentats du 13 novembre 2015, la colère des étudiants, l'affaire Polanski toujours, et les violences faites aux femmes, et un dernier hommage à une légende, Raymond Poulidor. C'est dans les informés avec Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, notamment celle des attentats terroristes de 2015, également candidate libre à la mairie de Montrouge en 2020. Avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe, c'est le vendredi à 19h30 sur France Info, le canal 27. Avec Caroline Michel Aguirre, chef du service affaires de l'Obs, et avec Patrice Moyon, chroniqueur économique et social à Ouest-France. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. 4 ans après, la France se souvient, journée de commémoration donc des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, 131 morts, 350 blessés. L'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, aujourd'hui député de La République En Marche de Seine-et-Marne, a participé ce soir-là à l'assaut contre les terroristes au Bataclan. Il s'est confié tout à l'heure dans le 1850 France Info.
Tous les policiers du RAID et de la BRI et leurs chefs qui ont pénétré et tous les autres policiers, il y a eu d'autres policiers qui sont pénétrés et les services de secours après qui ont vu ça et les politiques aussi qui sont ont mis un pied en enfer et je pense que ce pied en enfer on l'oublie pas, on a toujours la tête la tête prise par ça. Bon, on va pas aller dans le pathos. Je suis vraiment solidaire avec les victimes, avec les familles des victimes, et j'ai une pensée pour eux. La mort, ça a une, dans ces conditions-là en tout cas, ça a une odeur, ça a un bruit, le bruit de ces téléphones qui vibraient. Voilà, c'est ça. Comment peut-on se préparer à ça? Personne n'est préparé, même des militaires les plus endurcis qui vont au combat, vous n'êtes pas préparé à ça, c'est pas possible, c'est impossible.
Jean-Michel Fauvergue, il y a de la violence aujourd'hui en France.
Mais aujourd'hui, la violence, elle est partout, et c'est pas que les attentats terroristes, la violence. Elle s'est distillée dans la société, elle s'est distillée sur le maintien d'ordre. Aujourd'hui, le choix, c'est la violence ou c'est de continuer notre route démocratique, c'est de continuer notre vivre ensemble, cette façon de vivre ensemble. Et c'est ça qu'on a défendu, c'est ces valeurs-là qu'on a défendu aussi en rentrant dans le Bataclan.
Audrey Goutard, un pied en enfer, a dit Jean-Michel Fauvergue. Au fond, c'est une formule qui résume ce cauchemar du Bataclan.
Ça résume parfaitement ce cauchemar. Moi, je me souviens très bien qu'à cette époque, j'avais croisé, dans les jours qui ont suivi vraiment le Bataclan, j'avais croisé Jean-Michel Fauvergue, j'avais croisé aussi les hommes du RAID qui étaient intervenus au Bataclan. Et je peux vous dire que ce sont des hommes totalement aguerris, qui ont l'habitude de mettre leur vie en jeu en permanence. Et cet événement-là était particulier pourquoi ? Parce qu'effectivement il y avait tellement de jeunes gens qui étaient assistés à ce concert, chacun dans l'esprit de ces policiers tout aguerris qu'ils étaient, ils imaginaient un membre de leur famille, c'était en plus dans une salle de concert, ouais, pour le bonheur, etc. Donc moi je me souviens qu'effectivement tous étaient extrêmement perturbés par cet événement et ils allaient connaître juste après d'autres événements terroristes, mais celui-là, c'était un moment particulier.
Juliette Méadel, très difficile d'évoquer, y compris pour un policier de choc comme Jean-Michel Fauvergue, au fond, ce cauchemar.
Pour les policiers, pour les aidants, pour tous ceux qui ont vu, c'est très dur. Les victimes que j'ai eues au téléphone là ces derniers jours et que je connais bien, qui sont entre-temps devenues proches, m'ont dit à quel point les images qu'elles voient défiler, les souvenirs font ressurgir, c'est un mécanisme que les psychiatres connaissent bien, font ressurgir même les odeurs. C'est-à-dire que dans le Bataclan, mais aussi aux terrasses...
La mort a une odeur, hein, disait Michel Fauvergue.
La mort, le sang. Oui. Et dès lors qu'elle réactive le souvenir, tout revient, et il revient à des moments où elle s'y attend le moins. Donc, c'est un cauchemar, en fait, qui se renouvelle. Et s'il n'y a pas de soins, je pense en particulier aux policiers, qui sont hélas rarement accompagnés par des psychiatres ou par des psychologues, alors qu'ils ont eux-mêmes vu des choses traumatisantes, s'il n'y a pas de soins, ça peut dégénérer ensuite en des maladies psychotraumatiques et des vraies maladies de système.
Caroline Michel-Aguirre, que faut-il se rappeler de cette soirée épouvantable avec ce cortège de mort, au fond ?
Je pense que tous les Français, ou presque, se souviennent ce qu'ils faisaient ce soir-là. Ça laissera très certainement une trace très très forte, je pense en particulier à nos enfants, les jeunes enfants. Moi j'habite dans le 11e arrondissement, on a connu Charlie et le Bataclan ensuite, et nos enfants dans les écoles depuis font des exercices de confinement chaque année. Il faut imaginer ce que c'est pour des petits-enfants, puis plus grands, d'apprendre à s'enfermer sans faire de bruit, en imaginant un possible agresseur qui arrive. Et puis, je partagerai avec vous un souvenir personnel de journaliste. Le lendemain du Bataclan, moi, je suis partie à Molenbeek, en Belgique, d'où venait la famille Abdeslam. Et je suis tombée, en enquêtant, sur les copains des frères Abdeslam. C'est à cette occasion que j'ai appris que Salah Abdeslam, j'ai compris, était revenu dans la nuit. Et il m'est arrivé une chose qui m'était jamais arrivé, j'ai fondu en larmes, littéralement, de voir face à moi ces petits gars qui ne ressemblaient pas au monstre que j'avais imaginé deux jours plus tôt, qui avait décimé la salle de concert qui se trouvait à côté de chez moi. Et je n'ai pas supporté humainement cette triste banalité du mal.
Patrice Moyon, qu'est-ce que vous évoque, vous, cette date fatidique du 13 novembre 2015 ? Alors,
c'est vrai que je pense que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce soir-là. Moi, je pense qu'il faut garder aussi en mémoire la façon dont la société française a réagi à ces attentats, c'est-à-dire qu'elle est restée soudée, elle est restée digne, et je pense que dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui, où il y a cette exacerbation des tensions, il faut garder ça en mémoire.
Allez, 20h10, nous restons sur ce thème de cette commémoration des attentats de 2015, mais tout d'abord à 20h10, donc le rappel de l'info sur France Info avec vous, Stéphane Goualier.
Déluge, dommage. Après l'annonce de la mort de Raymond Poulidor, l'icône populaire, la légende du cyclisme s'est éteinte la nuit dernière à l'âge de 83 ans. Poupou, à jamais maillot jaune dans le cœur des Français, a tweeté le président de la République Emmanuel Macron. Un homme simple, authentique, drôle. Salut sur France Info, le journaliste sportif Gérard Holtz. Premier épisode neigeux notable de la saison avec trois départements placés en vigilance orange, neige, verglas, l'Ain, l'Isère et la Drôme. Météo France appelle à limiter ses déplacements. Le Conseil d'État condamne le CSA à verser plus d'1 million d'euros à la chaîne C8 en cause. La privation de publicité pendant une semaine décidée en 2017 par le gendarme de l'audiovisuel contre l'émission de Cyril Hanouna après une séquence polémique susceptible d'humilier les personnes d'après le CSA. Le tueur en série Michel Fournier et son ex-femme Monique Olivier placés en garde à vue, entendus dans le cadre de l'enquête sur la disparition dans l'Orne d'une jeune femme de 29 ans, Lydie Loger, le 18 décembre 1993. Une enquête réouverte l'année dernière. Au moins 13 Palestiniens tués aujourd'hui dans les frappes sur la bande de Gaza, résultat de l'opération lancée hier par l'armée israélienne contre des positions du djihad islamique. Au total, 23 Palestiniens, dont 3 enfants, ont été tués depuis le début de l'opération. Il y aura bien des Peugeot au départ des 24 heures du Mans en 2023. Retour sur le circuit pour la marque Aulion, plus de 10 ans après avoir renoncé à sa participation. Retour expliqué par une réduction des coûts permise par la nouvelle réglementation.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Nous allons à présent évoquer les victimes de ces attentats de 2015. Voici d'abord le témoignage de Jérôme, un rescapé du Bataclan, rencontré aujourd'hui, ce matin, devant la mairie du 11e arrondissement. Jérôme qui ne tournera jamais la page.
Tourner la page, on ne la tournera jamais. Malheureusement, ça fait partie de notre vie maintenant. C'est ancré en nous au plus profond. Et je suis même pas certain qu'on ait vraiment envie de... Enfin, moi, j'ai pas vraiment envie de tourner la page. C'est quelque chose qui fait partie de moi.
Voilà donc ce témoignage. Il y en a eu d'autres, hein, tant d'autres hein, sur France Info. C'est un monstre qui vous envahit, confié notamment hein, Guillaume, publicitaire de 48 ans, qui dit vivre avec un boulet au pied. Juliette Méadel, le président François Hollande, c'était le 11 février 2016, vous a confié cette mission. Il vous a nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'aide aux victimes. Quel a été le plus difficile dans cette mission ?
D'abord, c'est une mission qui partait de rien, si je puis dire, parce qu'il n'y avait pas de ministère en charge des victimes, il n'y avait pas de structure administrative. Mais c'est en même temps ce qui en faisait tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin. Et les victimes du 13 novembre, on les a un petit peu entendues là. En fait, la France n'était pas prête, comment aurait-elle pu l'être, à vivre des attentats d'une telle ampleur. Et donc, on n'avait pas d'expérience du suivi des victimes, de coordination des services.
Il n'y avait rien avant.
Mais c'est-à-dire qu'il y avait des associations, heureusement qu'elles étaient là. Mais au niveau de l'État, il n'y avait pas de pilotage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coordination. Les victimes, c'est des indemnisations financières, mais c'est du soin, c'est aussi de l'accompagnement social, c'est du logement, ouais. C'est des questions économiques. Ça mêle aussi le ministère des Affaires étrangères. Ça dit qu'il y avait une coordination de 5 ministères au gouvernement. Et pour coordonner ces ministères-là, il fallait donc imaginer une structure placée auprès du Premier ministre, c'est ce que j'avais demandé à Manuel Valls, qui puisse animer et faire avancer le sujet.
Et arbitrer les dossiers auprès de chacun des ministères,
exactement.
Parce que j'imagine qu'il y a des blocages à chaque fois.
Mais bien sûr, il y a eu toute une série de blocages. Il fallait par exemple mettre en place un guichet unique, c'est-à-dire éviter que la victime ne soit dans une espèce de parcours du combattant, où elle doit aller frapper à toutes les portes pour faire reconnaître ses droits, où il faut qu'elle raconte à nouveau ce qui lui est arrivé. Or, quelqu'un qui est victime d'un attentat, à chaque fois qu'il réévoque le souvenir, c'est un traumatisme. Il fallait défendre, évidemment, le montant des indemnisations. Il fallait faire en sorte que la sécurité sociale rembourse vite et bien. Enfin, il y avait une montagne de problèmes administratifs et on a mis en place un guichet unique et surtout, au-delà de ces aspects administratifs, en fait, ce que voulait François Hollande, et il a réussi, c'est qu'on mette en place une reconnaissance au sommet de l'État.
Ouais.
Et la reconnaissance pour les victimes, c'est très important.
Une forme d'incarnation, finalement.
Une incarnation
qui a disparu, après, hein.
Qui a disparu une reconnaissance, et quelqu'un qui défende les droits des victimes. Quelqu'un qui dise, et moi c'était mon objectif, je veux que les droits des victimes soient pris en compte, pris en charge, soient reconnus. Et c'est important parce qu'en fait, les victimes n'attendent pas de l'argent. On croit toujours, on dit, là, vous voyez, pour les 2700 victimes...
Qu'est-ce qu'elles souhaitent
dit,
du
voilà,
soutien
ben, elles veulent d'abord de la reconnaissance symbolique.
Oui, oui.
Parce que l'État a failli dans sa mission de protection. Donc l'État a une dette. Donc quand on indemnise les victimes, c'est pas on a donné 107 millions d'euros, comme ce qui est le cas là. C'est on a tenté de réparer quelque chose qui est irréparable. Quand vous avez perdu un enfant, aucune somme d'argent ne vous rendra jamais ce que vous avez perdu. Donc ce qui est important, c'est que la République dise... Je reconnais votre situation, vous avez été victime, vous devez être reconnu dans vos droits et on doit aussi vous rendre hommage, un hommage comme on rend hommage à des soldats, car les victimes, on ne le dit pas assez, mais les victimes de terrorisme sont des victimes civiles de guerre.
Ouais. Audrey Goutard, cette création vous a semblé indispensable à ce moment-là.
Oui, d'autant plus que je me souviens, moi, en tant que jeune journaliste, j'avais suivi les attentats de 1995, où vous aviez une petite association qui s'appelait SOS Attentats.
François Renitzky,
qui a fait un peu comme elle a pu avec les moyens du bord. C'est vrai que la société française, en plus, a toujours eu un problème pour la reconnaissance de la notion de victime. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec les femmes battues. Mais, la notion de victime est toujours un souci dans notre société française. Et en plus, maintenant, on ne peut plus nier qu'il y a ce que subit physiquement une victime et puis ce qu'elle subit moralement, psychologiquement. On voit bien dans les 2700 victimes qu'il n'y a pas seulement le heurt physique, mais qu'il y a aussi le fait d'avoir vu, d'avoir entendu, d'avoir senti quelque chose. Sur l'attentat de Nice, par exemple, c'est tout à fait clair. Les gens qui étaient en bordure de ce camion fou, ont été totalement traumatisés par ce qu'ils ont vu. Donc voilà, c'est-à-dire que à un moment donné, il est important que la société, comme vous le disiez très justement, prenne en charge ces victimes parce que l'État a une dette envers elles.
Alors Patrice Moyan, nous parlons sous le contrôle de celle qui fut en charge du dossier. Est-ce que vous pensez qu'on peut quantifier au fond le préjudice?
Oui, enfin moi je pense qu'effectivement c'est très extrêmement difficile de quantifier. Il y a un moment où il faut effectivement mettre quand même une somme, et puis il faut aider surtout ces personnes-là, en tout cas celles qui ont survécu à repartir dans des conditions les meilleures possibles dans la vie. Mais il n'y a pas de somme. Il n'y a pas de somme pour ces vies brisées.
Il n'y a pas de somme, vous dites, Patrice Moyan. Caroline Michel-Aguirre, on reste victime, selon vous, au fond, toute sa vie.
Alors, victime, c'est peut-être un mot un peu dur pour les personnes qui ont vécu ça. On reste quelqu'un qui a vécu ça. Je rappellerai juste que la 131e victime s'est donné la mort il y a quelques mois dans la clinique. C'était un jeune homme dans la clinique où il venait d'être...
Oui, c'est pour ça que ce bilan est passé à 131.
Exactement. Oui. Les médecins qui soignent les victimes d'attentats sont les mêmes qui soignent nos militaires qui reviennent des théâtres de guerre. Et je pense que le post-trauma, enfin c'est les médecins qui le disent, le traumatisme que cela génère, cette proximité de la mort qu'évoquait Jean-Michel Fauvergue, celui-là, on ne peut pas l'extraire, en effet, une fois qu'on l'a vécu.
Juliette Méadel, pardonnez-moi, je vais vous faire écouter ce que disait ce matin sur France Info. Il était parmi nos invités, Guillaume Denoy de Saint-Marquis, le directeur et fondateur de l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme.
Aujourd'hui, le système français, même s'il y a encore des défauts et des améliorations à apporter, est celui qui est le plus efficace au monde. Et c'est sans doute à cause des événements du 13 novembre qu'il y a eu une remise à plat de tout le système d'accompagnement des victimes du terrorisme. D'une part, mais qui a amené aussi à une vraie politique d'accompagnement des victimes en général. C'est-à-dire que ce qui a été fait pour les victimes du terrorisme a permis aussi d'accompagner les autres victimes.
Juliette Méadel, vous validez ce qui vient d'être dit? C'est le meilleur système au monde? Oui. Il n'y a pas de comparaison?
Absolument. Moi, j'avais organisé la première conférence internationale pour l'aide aux victimes en janvier justement 2017. Donc, j'avais fait venir, il y avait une centaine de pays qui étaient venus, puis on avait comparé les systèmes. Ah. Et franchement, il y a une chose qu'on a en France de bien, c'est ce qu'on appelle l'interministériel. C'est-à-dire qu'une autorité politique qui est placée à Matignon, ça veut dire qu'il coordonne les services. Par exemple, j'ai été allée voir nos amis belges et nos amis allemands, et pour s'occuper des victimes, car en Belgique et en Allemagne, il y a eu des attentats, il y avait 4 ministres qui n'arrivaient pas à se parler entre eux. Et donc, les victimes, c'était une espèce de flou juridique et elles n'étaient pas prises en charge parce que tout le monde se disputait. Nous avons au moins cette capacité. C'est l'un des avantages du centralisme, à pouvoir organiser les choses. Et les autres pays, alors il y a quand même l'Espagne, où ils sont assez bons. Et donc, la France, à cette époque, on avait lancé une coopération avec 5 pays d'Europe pour dire on va reconnaître un droit européen de l'aide aux victimes, avec notamment la reconnaissance d'un préjudice dont on parle pas assez, c'est la situation des enfants. On avait aussi obtenu quelque chose qui aujourd'hui est inscrit dans le droit et que j'avais obtenu, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance du préjudice de mort imminente. Oui. Ce préjudice de mort imminente s'applique aussi quand vous avez un accident de transport. Je m'étais inspirée de Puisseguin, qui était un accident de car grave, et que vous voyez la mort arriver. Et quand on voit la mort arriver, les spécialistes du psychotrauma ont décrit que ça a un impact physiologique qui ensuite génère d'autres types de maladies plusieurs années après. Donc ce préjudice-là, aujourd'hui, il est pris en charge par le droit. Et c'est ce qui explique aussi que vous avez des victimes de l'attentat du 13 novembre 2015 qui ne se déclarent qu'aujourd'hui. Car elles ont vu la mort arriver, elles ont cru qu'elles allaient s'en sortir et 4 ans plus tard, elles dorment plus, elles mangent plus, elles savent pas ce qui se passe et en vrai, elles sont victimes du choc post-traumatique.
Allez, nous marquons une nouvelle pause dans les informés à 20h21 sur France Info avec le rappel de l'info et vous, Steven Goyer.
Les agriculteurs touchés par les retombées de l'incendie de Lubrizol commencent à recevoir leurs premières indemnités, annonce du ministre de l'Agriculture. Le site dédié compte déjà 160 dossiers déposés, des versements pour compenser l'arrêt de la commercialisation de certains produits. La dernière échappée de Raymond Poulidor, Poupou, s'est éteint la nuit dernière dans son Limousin natal, sportif populaire par excellence. Il avait grimpé 8 fois sur le podium du Tour de France sans jamais porter le maillot jaune. L'éternel second, comme il était surnommé, avait 83 ans. La Chambre régionale des comptes ne dispose d'aucun élément matériel pour justifier de l'emploi de l'ex-compagne de Gérard Collomb, un emploi d'agent municipal pendant près de 10 ans. Une enquête a été ouverte en début d'année par le parquet national financier. Un diplomate américain à Kiev dénonce la mise en place d'un canal diplomatique irrégulier avec l'Ukraine. Début des auditions publiques sur la destitution de Donald Trump, les démocrates soupçonnent le président américain d'avoir fait pression sur les autorités ukrainiennes pour obtenir l'ouverture d'une enquête sur son rival Joe Biden. Tous les policiers du RAID et de la BRI qui ont pénétré dans le Bataclan ont mis un pied en enfer. Réaction sur France Info de l'ancien patron du RAID et député LREM Jean-Michel Fauvergue. 4 ans jour pour jour après les tueries du 13 novembre 2015, 130 personnes avaient perdu la vie dans les attaques terroristes. L'équipe de France de football, elle, s'est recueillie de son côté sur la pelouse du Stade de France. Les Bleus ont observé une minute de silence avant de démarrer leur entraînement. En hommage aux victimes des attentats, les hommes de Deschamps affronteront demain la Moldavie en qualification pour l'Euro 2020.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous sommes en droit de nous poser la question ce soir et maintenant. L'état de la menace terroriste reste maximal, a expliqué Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur sur France Inter ce matin. En 40 années, le terrorisme islamiste a représenté plus de 33 000 attentats sur la planète, 167 000 morts, dont la majorité, l'immense majorité des victimes, eh bien, sont des musulmans. C'est ce qu'indique cette étude de la Fondapol. La France est clairement le pays d'Europe le plus touché. Les explications sur France Info de Dominique Régnier, le directeur général de cette fondation pour l'innovation politique.
La France paye, en quelque sorte, sa capacité à intervenir dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de démocraties qui ont une capacité à intervenir dans le monde pour essayer de dénouer des conflits. Je crois qu'il y a aussi un lien compliqué avec l'histoire française et son passé colonial, qui dans certains pays, c'est le cas de l'Algérie, a pu favoriser, je dirais, un terreau de violence qui avait d'autres déterminations, hein, mais qui pouvait aussi se retrouver dans ce lien avec un pays anciennement colonisateur. Et puis la France est un des pays clés de l'espace européen, qui contient aussi dans sa propre population, c'est une caractéristique de la France, une double communauté importante, je dirais, une communauté musulmane nombreuse et une communauté juive qui est également nombreuse, d'où aussi une importation, par exemple, du conflit israélo-palestinien. Or, nous observons qu'il y a une islamisation du conflit israélo-palestinien.
Caroline Michel Aguirre, la France reste une cible?
Oui, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, le nombre d'attentats déjoués a augmenté depuis 2015. Ça n'est pas que la menace a faibli, c'est qu'on a appris à mieux la déjouer. Aujourd'hui, cette menace, elle a clairement changé de nature. À l'époque du Bataclan, que nous venons d'écouter, c'était la menace de personnes étrangères à la France rentrant en France pour commettre des attentats. Aujourd'hui, cette menace, elle est, telle que l'appellent les spécialistes, endogène, c'est-à-dire des gens étant déjà en France, soit qui auraient eu une radicalisation rapide, parfois ça intervient en quelques semaines sur Internet, soit qui sont en prison, notamment, qui en sortiront et qui pourraient représenter une menace à ce moment-là.
Mais Patrice Moyon, les groupes terroristes, même s'ils sont défaits ça et là sur le terrain, on pense évidemment à Daesh, au fond, gardent une capacité, on va dire même économique et militaire pour frapper. C'est une question.
Bah écoutez, oui, et visiblement, ils gardent des ressources logistiques. On le voit au Sahel actuellement. On parle de trafic. Donc, ils gardent la capacité du terrorisme à essaimer reste très présente. On voit qu'ils gardent aussi des bases en Afghanistan. Donc, ils peuvent frapper à tout moment, oui. Y compris avec des individus qui décident de se radicaliser.
Audrey Goutard.
Oui, moi, je pense que il faut aussi relativiser les choses pour deux raisons. D'abord, en tout cas, la capacité, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, la capacité à frapper sur le sol français venant de l'extérieur a totalement diminué. De façon endogène, oui, nous avons des gens qui peuvent vouloir passer à l'action, mais on se rend compte que en France, grâce à une loi sur les armes très stricte, il est très difficile de se procurer de l'armement. D'ailleurs, on l'a vu depuis 2015, les derniers attentats ont été commis avec, entre guillemets, je suis désolé de l'expression, mais un peu les moyens du bord. On n'a pas, oui. On ne voit pas de système extrêmement perfectionné ou d'armes automatiques complexe qui aurait été acheté sur un marché noir. Il est compliqué en France d'obtenir une arme, donc tant mieux. Et puis ensuite, j'écoutais la personne que nous entendions tout à l'heure de l'Observatoire qui a fait une étude. Moi, je pense qu'il faut pas tout mélanger, dire que la France est une terre, un endroit où effectivement il y a énormément d'attentats. Je suis désolée, mais l'Angleterre est un endroit qui a été frappé très durement par des attentats. En France, effectivement, oui, nous avons une population musulmane, oui, nous avons une histoire avec nos colonies, mais on ne peut pas dire que la France a été, enfin, est un endroit où il fait mauvais vivre par rapport à d'autres pays.
Vous partagez ce point de vue, Juliette Médadel, rapidement.
Oui, alors, bon, oui, l'Espagne a été frappée avant nous, quoique nous avions subi les attaques de 2012, les attaques de Toulouse et de Montauban, qui étaient déjà le premier signe d'un attentat terroriste sur notre sol. Moi, ce que je trouve en fait le plus inquiétant, c'est qu'on peut se rassurer, et tant mieux, parce que Daesh, sur le terrain militaire et sur les terres étrangères, à peu près a été jugulé. Mais il n'en reste pas moins qu'on a maintenant affaire à un terrorisme qui est en train de s'exprimer d'une façon, hélas, un peu plus stratégique, comme le disent tous les experts qui ont étudié la question. C'est une radicalisation rampante avec des objectifs politiques et qui s'exprime d'abord dans les prisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la radicalisation dans les prisons avance très très vite et s'accélère et on ne maîtrise pas grand-chose.
Allez, nous allons marquer une pause, 20h28 sur France Info. On se retrouve dans une poignée de minutes après la météo et le rappel de l'info pour la deuxième partie des Informés de France Info.
Communication à caractère promotionnel.
La Française des Jeux entre en bourse. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans une entreprise performante, en croissance et utile à tous, avec environ 3,5 milliards reversés chaque année à la collectivité.
Entrez dans l'histoire. Entrez dans le capital de FDJ.
Devenez actionnaire jusqu'au 19 novembre.
L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque, dont le risque de perte en capital, figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF. Disponible sur le site internet de la société et de l'AMF. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
Les prévisions météo avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Une perturbation atlantique va glisser sur le pays cette nuit, se décalant vers l'est et le sud-ouest demain matin. L'après-midi, le temps sera encore gris et pluvieux sur toute la moitié est. Cette perturbation va d'ailleurs devenir plus active à partir de la fin de matinée entre la Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, apportant de grandes quantités de pluie. Les limites pluie-neige vont également chuter, passant de 800 mètres le matin à 300-400 mètres demain après-midi. Localement, il peut même neiger plus bas. La neige sera humide et collante et les cumuls seront importants par endroit. C'est pourquoi Météo France a émis une vigilance orange. Sur le Grand Est, les chutes de pluie et de neige seront plus faibles et intermittentes. Sur la moitié ouest, le temps sera plus changeant. Des éclaircies se dessineront entre la Bretagne, la Vendée, le bassin parisien et les Hauts-de-France, prenant plus de place l'après-midi. En revanche, près de la Manche et des Pyrénées au bord de la Loire, des averses sont à craindre demain. L'ambiance reste toujours fraîche pour la saison, avec même des gelées encore possibles cette nuit. Demain après-midi, prévoyez 5 à 13 degrés en général et 15 à 17 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Les réactions sont nombreuses après la disparition de Raymond Poulidor, chez lui dans le Limousin, près de son fief de Saint-Léonard-du-Noblat, où on retenait surtout ce matin, outre la carrière, la simplicité, clé de sa popularité. Poupou à jamais maillot jaune dans le cœur des Français, a tweeté Emmanuel Macron. Sur France Info, le journaliste sportif Gérard Holt se salue, un homme simple, authentique et drôle. Deux jours après le séisme qui a frappé la Ardèche et la commune du Teil, on continue de faire les comptes. 895 logements endommagés, au moins 250 bâtiments fissurés, inhabitables, des dégâts que le maire du Teil, 8500 habitants, Olivier Peverelli, ne pourra pas payer. Il lance donc sur France Info un appel à l'aide à toutes les communes de France. Écoutons-le.
La situation de notre commune s'aggrave de jour en jour, hein, vu de l'ensemble des découvertes qu'on fait sur les bâtiments publics, sur les routes, sur les ouvrages d'art. Et même si la solidarité de l'État va jouer, on sait que ça suffira pas. Si on veut reconstruire la commune pour le Teil et pour ses habitants, il nous faudra donc vraiment une solidarité nationale forte, qui aille au-delà des aides classiques, parce que les 20% que nous devrons rajouter, mettre pour reconstruire nos écoles, reconstruire nos églises, reconstruire notre centre socio-culturel, notre centre culturel et une partie de l'hôtel de ville, ben ces 20% on les a pas, on les trouvera pas quoi.
Le maire du Teil dans l'Ardèche, Olivier Peverelli. Y a-t-il une nouvelle victime dans le parcours meurtrier de Michel Fourniret? Le tueur en série et son ex-femme ont en tout cas été placés en garde garde à vue, soupçonné dans l'enquête sur la disparition d'une jeune femme. C'était en 1993 dans le département de l'Orne. Patrick Balkany reste derrière les barreaux. La cour d'appel de Paris a rejeté aujourd'hui la deuxième demande de remise en liberté du maire Les Républicains de Levallois-Perret. Patrick Balkany est incarcéré depuis 2 mois à la prison de la Santé à Paris après ses condamnations successives pour fraude et blanchiment. 4 ans après les attentats de Paris, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, accompagnés de la maire de Paris, sont recueillis aujourd'hui sur les lieux des attaques, au Stade de France, puis sur les terrasses visées par les assaillants et au Bataclan. 130 personnes étaient tombées ce soir-là sous les balles des djihadistes. Emmanuel Macron appelle à rester unis pour ne jamais laisser gagner ceux qui les ont commis. Les Français ont déjà souscrit plus de 600 millions d'euros d'actions de la Française des Jeux, quasiment une semaine après le début de l'opération de privatisation de l'entreprise. C'est au-delà de toutes nos espérances, félicite le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, deuxième partie avec Jean-François Aquili.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Les informés, la suite avec Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes et désormais candidate libre à la mairie de Montrouge pour les municipales en 2020. Avec Audrey Goutard, journaliste France 2, présentatrice de Ligne Directe. Très bon magazine le vendredi à 19h30, je vous le conseille, sur France Info, la chaîne 27. Mais c'est vrai, je le pense. Avec Caroline Michel Aguirre, chef du service affaires de l'hebdomadaire L'Obs. Et avec vous, Patrice Moyon, chroniqueur économique et social à Ouest France. Alors, y a-t-il un risque de convergence des luttes, pour employer une expression consacrée? Le gouvernement, tout en cherchant à désamorcer la colère, a condamné aujourd'hui les violences survenues après l'immolation d'un étudiant à Lyon. Des étudiants ont notamment enfoncé hier soir la grille du ministère de l'Enseignement supérieur à Paris. Écoutez Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres.
Le gouvernement a évidemment pris à bras le corps le sujet de la précarité étudiante et de l'accompagnement à la réussite des études de l'ensemble des étudiants. Il va sans dire que pour la question que vous me posiez du contexte de violence, le gouvernement les condamne évidemment, car rien ne peut justifier en aucun cas que des violences puissent être commises malgré l'événement tragique dont nous avons malheureusement été témoins.
Audrey Goutard, le gouvernement apparemment ménage les étudiants.
Oui.
Il y a un risque de contagion.
Bien sûr, et puis, vous souvenez-vous, ça a été l'angoisse du gouvernement depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est que tout s'enflamme, que ça s'enflamme du côté de la population non urbaine et que ça s'enflamme du côté des étudiants. C'est toujours la grande crainte des gouvernements. Et là, alors qu'on est au 1 an des Gilets jaunes, si vous vous retrouvez avec une convergence étudiante et Gilets jaunes, c'est un problème.
Alors c'est Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, qui récupère le dossier, qui reçoit à partir de demain les organisations étudiantes. Patrice Moyon, ça s'appelle l'opération déminage, cette affaire.
Ah, une opération déminage, oui, parce qu'effectivement, la fin de l'automne s'annonce compliquée. Demain, on a une grève dans les hôpitaux. Donc, il y a vraiment un risque de contagion sociale. Mais ce qui est un peu paradoxal, parce que finalement, la situation économique et sociale française est plutôt bonne. Le chômage recule, le taux de croissance reste soutenu. Il y a plein de problèmes encore à régler, mais la situation n'est pas dramatique. Elle ne s'est pas dégradée ces derniers mois. C'est vraiment dans les têtes. Il y a un climat social qui n'est pas bon.
Et puis, il y a eu aussi cette affaire dramatique de cet étudiant qui s'est immolé donc à Lyon. Il y a un risque de dérapage. Je poursuis, rassurez-vous, ce tour de table. Je vous fais écouter d'abord ce témoignage de cette étudiante, justement, dans la ville de Lyon.
J'ai 380 euros pour payer un loyer à 350 sans charge, pour payer ma nourriture, des vêtements, un ordinateur, parce qu'on est obligé d'avoir des outils informatiques dans ma licence. À un moment donné, c'est plus possible.
Caroline Michel Aguirre, il y a une vraie situation quand même, une vraie forme d'inquiétude, désespérance. C'est chez un certain nombre d'étudiants. On parle de 20% d'étudiants en dessous du seuil de pauvreté.
Oui, les chiffres sont terribles. Il y avait eu une étude faite par l'Observatoire de la vie étudiante en 2016 qui avait démontré des chiffres terribles. 20% des étudiants en dessous du seuil de pauvreté, 45% des étudiants qui déclaraient qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour vivre. vivre, 23% qui rencontraient d'importantes difficultés financières, 46% qui déclaraient travailler pour payer leurs études, et enfin environ 15% des étudiants qui déclaraient avoir renoncé à se soigner faute d'argent. Oui. Quel est le spectre aujourd'hui qui plane au-dessus du gouvernement? Il est double. Il est celui de 1968, c'est-à-dire la convergence d'un mouvement ouvrier, on dirait des gilets jaunes aujourd'hui, et d'un mouvement étudiant, et aussi celui de 1995 où les syndicats des transports que sont la SNCF et la RATP avaient exprimé par leur grève un refus général. Mais moi, si j'étais le gouvernement, ce qui m'inquiéterait par-dessus tout, c'est l'incroyable cri de désespoir qu'ont lancé les directeurs des hôpitaux publics de Paris aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que les Français, comme toutes les populations d'ailleurs, sont extrêmement attachés à leur système de santé et entendent ces professionnels de la médecine, sachant que l'hôpital français est vraiment une des grandes fiertés, dire on ne peut plus, ça va craquer, ça peut être un sujet de mobilisation générale.
Et Audrey Goutard, oui, rapidement.
Rapidement, ce que dit Caroline est très intéressant parce que en fait, aujourd'hui, dans la société française, on se rend compte qu'il y a des cris vraiment de colère et de désespoir de gens qui ont l'impression d'être moulinés par un système, l'impression de ne pas être entendus, qu'il s'agisse des étudiants, qu'il s'agisse des infirmiers, qu'il s'agisse maintenant des professeurs en médecine, etc. Mmh. Un système géré par des DRH qui et non plus par des politiques. Ouais. Et c'est ce qu'ils feront valoir.
Et que dit l'ancienne ministre? C'est un peu une angoisse pour les gouvernements quand les jeunes commencent à bouger.
Non, mais là, on est quand même face à une situation qui est complètement inédite, c'est-à-dire que la précarité des jeunes augmente. Donc, faut vraiment bien le mesurer. J'ai vu une étude qui est encore sortie ce matin qui montre qu'il y a une augmentation de la prostitution chez les jeunes filles.
Ce n'est pas un phénomène nouveau.
C'est un phénomène. L'augmentation.
Ce n'est pas nouveau, vous dites, Audrey Goutard.
Si, il y a un rapport qui montre ce matin qu'il y a une augmentation nette de la prostitution chez les jeunes filles, y compris dans les quartiers qui ne sont pas les quartiers les plus défavorisés, mais avec une pauvreté dans les universités. Et donc, cette précarisation de la jeunesse, c'est dramatique. Après, il y a un autre phénomène qui me semble extrêmement inquiétant, c'est cette espèce de difficulté à débattre. La comparaison avec 68, du coup, est complexe, parce que en 68, c'était moins violent et on discutait. Aujourd'hui, moi, je suis frappée par le développement de ce qu'on appelle les safe spaces, c'est-à-dire que c'est des endroits dont les jeunes expliquent qu'ils attendent qu'il ne puisse pas y avoir de débat contradictoire. Donc, ils veulent être entre eux, dans des espaces, dans les universités, où il n'y a pas de contradiction possible, parce qu'ils ne veulent pas être dérangés par la contradiction.
Vous dites qu'il y a moins ou plus de débats aujourd'hui?
Je dis qu'il y a une radicalité dans les échanges, une violence, et donc un recul de cet esprit des Lumières, et de cette envie de débattre qu'il y avait en 68, et donc il y a un recul démocratique. Je trouve que c'est extrêmement dangereux, ce qui explique la crainte justifiée du gouvernement d'une convergence des luttes, dont la violence est de plus en plus palpable.
Et d'où cette opération? Ah oui, Audrey Goutard veut ajouter quelque chose. Allez-y.
Je suis totalement ce que dit Juliette Méadel, et notamment, le jour où on n'a plus envie de discuter, de dialoguer, même de se battre intellectuellement, c'est parce que, et là je reviens à cette idée, c'est parce qu'on a le sentiment que ça ne servira à rien. Et tous les corps de métier qui s'expriment aujourd'hui, alors je ne mets pas ça sur le dos du gouvernement, c'est notre époque qui veut ça aussi, c'est ce sentiment, effectivement, d'être, comme je vous le disais, broyé par un système et que le dialogue, la revendication, finalement, ne servirait plus à rien.
En tous les cas, les organisations étudiantes sont reçues donc à partir de demain pour tenter de, on va dire, désamorcer cette crise de la part du gouvernement. Allez, 20h40 sur France Info. Nouveau rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
Poupou nous a quittés. La légende du cyclisme français, Raymond Poulidor, s'est éteinte à 83 ans la nuit dernière. Plus d'hommage aujourd'hui pour saluer l'icône populaire surnommée l'éternel second. Toujours le visage gai et des mots gentils, il nous manquera profondément. Tweet signé du quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome. L'Ain, l'Isère et la Drôme placés en vigilance orange, neige verglas par Météo France. La faute au premier épisode neigeux notable de la saison qui débutera demain à la mi-journée. Pierre Jox, visé par une plainte pour harcèlement et agression sexuelle. Plainte déposée par une ancienne employée à domicile qui aurait travaillé chez l'ancien ministre entre 2017 et 2018. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête. Plus de 600 millions d'euros d'actions françaises des Jeux déjà demandées. Chiffre transmis par Bruno Le Maire une semaine après le début de la privatisation de l'entreprise. C'est la preuve que le pari de l'actionnariat populaire est un pari gagnant. C'est félicité le ministre de l'économie devant les sénateurs. Evo Morales prêt à rentrer en Bolivie. vie. Le président démissionnaire s'exprime depuis son exil au Mexique. Si mon peuple le demande, nous sommes disposés à retourner en Bolivie pour apaiser la situation. Fin de citation. Pas de crainte, mais de la prudence pour la qualification à l'Euro 2020. Didier Deschamps appelle à la vigilance avant le match demain soir contre la Moldavie au Stade de France. On a tout pour atteindre notre objectif. Faisons en sorte de l'atteindre, a expliqué le sélectionneur des Bleus. La France est deuxième de son groupe à égalité de points avec la Turquie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
133 féminicides recensés depuis le début de l'année par le collectif Féminicide par ex-compagnon. 121 assassinats pour la seule année 2018. Nous sommes donc au-delà de l'urgence. Et il y a cette polémique autour du temps de réaction des forces de l'ordre, celle des gendarmes dimanche soir à Oberhofen-sur-Moder dans le Bas-Rhin, quand Sylvia Walter, cette femme de 40 ans, a été tuée de plusieurs coups de couteau par son compagnon. Sa fille a reproché aux gendarmes d'avoir tardé. Une enquête interne est ouverte. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a tenu aujourd'hui à rendre tout de même hommage au travail des forces de l'ordre.
Tous les jours, des policiers, des gendarmes sauvent la vie de femmes. Tous les jours, des policiers, des gendarmes font des interventions, y compris parfois contre le gré de la femme elle-même, qui ne voulait pas d'intervention, pour sauver leur vie et les protéger face aux violences conjugales, face aux féminicides. Je crois qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur les policiers et les gendarmes, mais très simplement et très lucidement voir quels sont les points d'amélioration, comment en termes de rapidité, de réactivité, de meilleure compréhension du phénomène, on peut les outiller.
Juliette Méadel, sur ce que vient de dire la secrétaire d'État, vous voulez réagir ?
Non, on ne va pas jeter l'opprobre sur les forces de l'ordre, mais enfin quand même là, en l'occurrence, ils avaient été appelés plusieurs fois auparavant. Alors le parquet avait lancé une enquête et n'avait rien trouvé, mais la fille de la victime avait quand même saisi et appelé les forces de l'ordre la veille et rien ne s'est passé. Moi, ce que je constate, et pour m'être occupée des femmes victimes de violences, c'est qu'il y a souvent dans les commissariats une difficulté à prendre la plainte. C'est-à-dire que vous avez des femmes victimes de violences qui arrivent, qui sont dans une situation de traumatisme épouvantable, qu'il faut donc accompagner. C'est pas facile de porter plainte quand on est victime de violences conjugales. C'est pas comme quand vous déposez plainte parce que vous êtes fait voler votre voiture. Donc, il faut améliorer et aménager l'accueil. Et pour ça, il y a des associations de victimes, de femmes victimes de violences qui font un travail formidable avec lesquelles il faut beaucoup plus travailler. Il y a quelques commissariats que je connais où les policiers travaillent avec des associations. Et donc, quand les femmes arrivent pour porter plainte, les policiers ont été formés. Ils savent comment faire, ils ont les bons mots et surtout, derrière, il y a des dispositifs de protection qui devraient se mettre en place pour éviter ces féminicides et pour éviter, en plus des féminicides, les infanticides. Je vous rappelle que 30 enfants sont morts l'année dernière des suites des violences sur les mères. Donc, c'est une cause urgente et le fait qu'on avance aussi peu est vraiment désespérant alors qu'on a des solutions. Et ces solutions, elles demandent une meilleure coordination, un meilleur travail entre associations et policiers et gendarmes.
Audrey Goutard, vous pensez que ça n'est qu'un problème de formation ou il y a quelque chose, malheureusement, de l'ordre culturel là-derrière ?
Comme tous les problèmes complexes, il y a un peu de tout. Mais je voudrais vous citer un reportage qu'on a fait très récemment et la réponse, on était dans un commissariat, on suivait justement le dépôt de plainte des femmes victimes de violences et à la tête de ce commissariat, c'était une commissaire. Donc on pourrait imaginer qu'elle soit plus sensible à ce qui pouvait se passer, même si, voilà, c'était une erreur de le penser, je pense. Et cette commissaire, lorsqu'on lui a dit « Mais pourquoi vous ne prenez pas mieux la plainte de cette femme ? Pourquoi est-ce que vous ne l'écoutez pas ? Cette femme s'est présentée à plusieurs reprises dans votre commissariat, vous n'avez pas tenu compte de ça. » Et la commissaire a répondu « Vous savez, nous, on est des policiers, on est humains, et parfois, il y a des jours où on n'est pas très réceptif. » Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que ce drame ne peut pas être géré par des gens qui ont des états d'âme, et c'est normal d'en avoir. Il faut des process, il faut des professionnels, il faut des associations. Et les policiers ne sont pas experts en la matière et ne peuvent pas l'être parce qu'ils traitent de tout. Ils prennent toute la misère du monde sur leurs épaules et effectivement, ils ne sont pas du tout préparés et capable de suivre des process très stricts que nécessite ce genre de
petite remarque.
Allez-y,
je pense qu'il y a aussi des directions à donner, des directions politiques pénales, mais même allons au-delà, c'est-à-dire qu'il faut que
la loi existe.
Mais le problème, c'est que vous savez, la loi existe. Le problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Donc, il faut aussi qu'il y ait des orientations politiques qui soient données aux enquêteurs, où on dise, vous ne laissez rien passer. Alors, s'il faut des moyens, il faudra leur donner des moyens. Vous ne laissez rien passer. Vous enquêtez combien de femmes, j'en ai encore reçu une il y a 3 jours dans ma ville, combien de femmes souhaitent porter plainte, arrivent pour porter plainte pour violence sexuelle et se font envoyer promener. On leur dit, je prendrai pas votre plainte. Alors que c'est le droit de chacun de pouvoir déposer une plainte. Aucun commissariat ne peut refuser de prendre une plainte.
Caroline Michel Aguirre, votre regard sur, au fond, ce système qui n'en finit pas de ne pas vouloir peut-être porter secours assez vite à ces femmes qui sont dans l'urgence, dans la détresse.
On est quand même au début de quelque chose. Cette conversation-là, on ne l'aurait sans doute pas eu il y a 2 ans et certainement pas eu il y a 5 ans. Je pense qu'il y a une prise de conscience, certes trop lente au regard des mortes et trop progressive, mais c'est une vraie prise de conscience. Cette semaine, dans l'Obs, on publie les bonnes feuilles d'une enquête et d'un témoignage sur, par exemple, le phénomène des féminicides auprès des forces de l'ordre. Pour les femmes de gendarmes et de policiers, c'est la double peine, à savoir qu'il est encore plus difficile d'aller déposer plainte et d'être protégée d'un compagnon qui est lui-même policier et gendarme, avec la menace supplémentaire de l'arme de service qui est très rarement retirée. Toutes ces choses-là n'étaient pas portées à la connaissance du public. Oui, ce sera long. Oui, il faudra des process. Oui, il faudra une volonté politique. Mais aujourd'hui, on en parle. Et je pense qu'il y a une prise de conscience et politique et auprès des forces de l'ordre, même si, évidemment, vous parliez du phénomène culturel, le changement de perception sera très
long. Les choses changent, vous dites ce soir, Caroline Michel Aguirre. Patrice Moyan, vous avez la sensation que le Grenelle qui se déroule sous nos yeux apportera des réponses très concrètes à cette urgence?
C'est pas si
très difficile à dire.
Moi, je crois qu'effectivement, il faut mieux former les policiers pour accueillir ces plaintes. Mais je crois aussi que ça traduit des tensions dans les commissariats, une difficulté. Enfin, on est dans une société violente. On est avec des policiers qui sont sous tension. Donc, comment est-ce qu'on prend en compte ces difficultés-là aussi. Hein.
Où sont les hiérarchies, finalement. C'est là où le politique est important.
Juliette Méladel, tiens, avec vous, un mot sur le J'accuse de Roman Polanski. On en a longuement parlé hier soir aux Informés de France Info. Vous irez voir le film?
Je suis pas fan de Polanski, pour ne rien vous cacher.
Une vraie question.
C'est
la dissociation de l'œuvre de son auteur.
Je me souviens d'un film de Polanski qui est Frantique, que j'ai vu le jour de mes 14 ans, qui est pas un film glauque, et je sais pas pourquoi je suis ressortie.
N'était pas un chef-d'œuvre non plus.
Avec une espèce de sentiment. Bon, Rosemary's Baby, j'ai jamais osé aller le voir. Je trouve qu'il y a quand même toute une, c'est un cinéma, Lune de Fiel, c'est un cinéma qui me convient pas du tout. Maintenant, faut pas juger le cinéaste à l'aune de sa vie, privée ou sexuelle. La justice est là, et là seulement la justice est là pour le condamner. Donc la justice, c'est une chose, et sa création artistique, c'est autre chose.
Audrey Goutard, oui.
C'est toute la difficulté de cette affaire. Vous avez une plainte qui est la première, mais il a été accusé par d'autres jeunes femmes, mais du fait des prescriptions, du fait des délais, du fait qu'elles n'ont pas porté plainte,
C'est une impasse.
Pour l'instant, effectivement, à part le dossier américain et cette jeune femme qui a été, parce que les faits sont assez avérés, a été violée dans les années 70, les autres plaintes n'ont jamais abouti.
Patrice Moyan, là-dessus, rapidement.
Moi, j'irai voir le film, évidemment, parce qu'il faut dissocier
l'œuvre de
ce qui s'est passé.
Mmh. Oui. Et vous, Caroline Michel Aguirre?
Je suis incapable de répondre à cette question.
Ce qui est une bonne réponse aussi en soi, je vous rassure.
Aujourd'hui, l'accumulation des plaintes interroge. et j'aimerais bien une réponse judiciaire à la question qu'on se pose, sauf que tous les faits dénoncés, je les ai repris pour les 6 femmes, s'étalent entre 1973 et 1983. Autant dire que ce sont des faits très anciens, et déjà sur des faits proches, on a du mal à enquêter, à juger, à démontrer. Alors vous imaginez pour des faits qui ont plus de 30 ans.
Allez, à 20h51, nous allons rendre hommage dans un instant à une légende du cyclisme. Pour l'heure, rappel de l'info avec vous, Steven Gouallier.
Hommage et recueillement. 4 ans après la tragédie, le 13 novembre 2015, 130 personnes avaient trouvé la mort lors des attentats de Paris. Des commémorations ont eu lieu au Stade de France, sur les terrasses des restaurants et à la salle du Bataclan. La menace terroriste est toujours aussi élevée, expliqué sur France Inter le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez. L'hôpital public est à bout de souffle. Avertissement lancé dans les colonnes du journal Le Monde par 70 directeurs médicaux de l'APHP. Ils réclament au gouvernement une augmentation du budget du ministère de la Santé. Éric Ciotti jette l'éponge. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes ne sera pas candidat à la mairie de Nice. Il laisse ainsi la place à son rival annoncé, Christian Estrosi. L'actuel maire n'a pas encore annoncé sa candidature. Bon démarrage pour le film J'accuse, malgré la polémique. Troisième meilleur démarrage à Paris pour un film français depuis le début de l'année. Un film consacré à l'affaire Dreyfus. La promotion avait dû être interrompue suite aux nouvelles accusations de viol contre le réalisateur Roman Polanski. Donald Trump, trop occupé pour regarder les débats autour de sa destitution. Les auditions publiques ont démarré aujourd'hui. Depuis le bureau Oval, le président américain dénonce une chasse aux sorcières. Il est soupçonné par les démocrates d'avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden. Le prix interallié pour Karine Thuil, la romancière reçoit le prestigieux prix littéraire pour Les choses humaines, une histoire de pouvoir, de sexe et de médias aussi en lice pour le concours des lycéens.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il semblait immortel et pourtant il s'en est allé à 83 ans. Raymond Poulidor, que l'on pouvait croiser dans la caravane du Tour de France, très sympathique, très accessible, très souriant. Eh bien, c'est celui qu'on appelait à tort l'éternel second. Écoutez et regardez, pour ceux qui sont devant le canal 27, eh bien cette rencontre étonnante entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil pour l'émission Les étapes de la gloire en 1976. Ça ne nous rajeunit pas. Le grand Jacques qui offre un maillot jaune à Poupou.
Si je l'essayais...
Ben vas-y, fais-le.
Jamais j'en ai porté, je sais pas. Si ça se trouve, ça me va pas, c'est peut-être pour ça.
Ben, remarque, c'est mieux de voir un maillot jaune aujourd'hui. Hein. Là, je trouve que ça te va très bien. Ça te va bien autant.
Oui, c'est vrai. Hein. Ouais, ouais. Pas mal. Hein. Quel effet ça fait, alors, d'avoir le maillot jaune, Raymond?
Ah, presque la chair de poule. Hein.
Ça vous donne des regrets à
cause Non, le vélo m'a tout apporté, bien au-delà de mes espérances. Évidemment, si j'avais pu gagner le Tour de France, ça me manque un peu, mais disons que je n'ai aucun regret.
Voilà, je n'ai aucun regret. C'est très sympathique. Je me tourne vers vous, Patrice Moyon, vous êtes le vétéran de ce plateau. Ça y est, ça s'est fait. Ça vous fait bizarre de voir Raymond Poulidor comme ça? Ça vous rappelle votre enfance, votre jeunesse quand même? Mais
écoutez, moi je trouve que c'est vrai qu'il fait partie.
Même âge, hein.
Il fait partie du paysage. Et puis on dit toujours que c'est l'éternel second, mais il a gagné aussi beaucoup. Il a gagné le Tour de France, le Tour d'Espagne, le Milan-San Remo, la Flèche Wallonne. Et puis c'est aussi la France du taux de croissance à 6%,
nous y voilà.
100 000 chômeurs, c'est...
C'est la France des 30 glorieuses, je m'adresse à l'économiste qui...
Oui, il y a un peu de nostalgie.
Semble s'éveiller là.
Oui, il y a un peu de nostalgie, et puis c'est aussi... Poulidor, c'était aussi cette France rurale, enfin, qui a donné beaucoup de champions sportifs, une enfance difficile... Oui, ouais. Un peu de nostalgie.
Vous êtes d'accord avec ça, vous, Caroline Michel Aguirre? C'est un petit peu une certaine France qui s'en va?
Alors moi, mon enfance, c'est plutôt Bernard Hinault, désolé.
Vous êtes plus jeune.
Et Bernard Hinault, c'était celui qui gagnait. Et ce qui m'a toujours frappé dans le mythe à Raymond Poulidor, que du coup, je n'ai pas connu courant, c'est la manière dont les Français aiment bien les seconds. En fait, on n'est pas une nation qui aimons les vainqueurs. On aime...
C'est sévère, ce que vous dites.
Non, c'est le reflet de ce qu'on est en sport. C'est-à-dire, l'important, c'est de participer et de pas gagner. Et pas de gagner L'important, c'est de gagner aussi ce qu'était Bernard Hinault.
Audrey Goutard, vous qui êtes une grande fan de cyclisme, qu'est-ce que vous inspire cette personnalité de Raymond Poulidor? Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la nostalgie, c'est un bout de France qui part, qui
s'en
va.
Absolument, alors ça m'étonne toujours, mais c'est très humain d'avoir la nostalgie de ce qui est passé, mais enfin bon, oui, c'est les 30 glorieuses, mais c'est aussi... Alors j'entendais ce matin un copain de classe de Poulidor, parce qu'il venait du Limousin, ce fameux copain de classe disait « Non mais Poulidor, heureusement qu'il était là, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuyait dans le Limousin dans les années 70 ?» C'est aussi une... Enfin voilà, on peut avoir la nostalgie, mais c'est aussi une France... qui connaissait d'autres crises et d'autres pour la jeunesse, c'était pas obligatoirement formidable. On vient de parler de Polanski, tiens, par exemple. Ouais. C'était aussi une France où MeToo aurait eu des beaux jours et où les femmes n'étaient pas obligatoirement bien traitées.
Juliette Méadel. Oui,
c'est vrai que c'était pas une période progressiste pour les femmes, mais quand même, moi, je me souviens toujours de cette belle expression qui avait été, je crois, inventée par Françoise Giroud et qui dit qu'en fait, au fond, entre 1970 entre 68 et 1980, c'est ce qu'on appelle la parenthèse enchantée, c'est-à-dire que c'est cette période où il y a la pilule, mais il n'y a pas le sida, il y a une forme de libération.
C'était mieux avant.
Une forme de... Non, mais c'est vrai que 30 glorieuses, donc pas de chômage, la pilule, une libération des mœurs, parce qu'il y avait quand même eu ce carcan, et puis pas le sida, bah, ça fait quand même trois ingrédients qui font que la vie était probablement moins anxiogène qu'elle ne l'a été par la suite, et en particulier pour les jeunes aujourd'hui qui vivent avec la menace climatique, et nous aussi, sur la tête.
Mais pas de maillot jaune non plus pour ce cher Raymond Poulidor, et une pensée évidemment très affectueuse à ce grand monsieur, allez, qu'on a pu voir passer sur les routes du Tour, pour certains du moins d'entre nous ici. Patrice Moyon, la une de West France demain.
Le blues des blouses blanches avec l'hôpital, la crise à l'hôpital.
Oui, et avec vous, Caroline Michel Aguirre, la une de l'Obs.
Ce sont les Français obligés de travailler après la retraite, obligés ou qui choisissent de travailler pour certains, par refus d'arrêter toute activité physique et intellectuelle.
Allez, c'est la une de l'Obs. Et chez vous, Audrey Goutard, dans le.
Eh bien.
J'allais dire l'instant T, en ligne directe.
C'est mon ancienne émission, ça. Alors, ligne directe, écoutez, une artiste. Anon Manoff.
Très bien, allez, merci à tous les quatre, Juliette Méadel, Audrey Goutard, Caroline Michel Aguirre et vous, Patrice Moyon, d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée.